Un autre regard, la révolution russe de 1917. Contre les réécritures de la révolution russe de 1917, revenir sur cet événement, c'est redonner la parole aux millions de Russes qui ont changé le cours de la lutte des classes de tout le XXe siècle. Car cette révolution n'est pas un coup d'État. Elle a été un mouvement d'une ampleur historique considérable, qui a mis en branle contre l'ordre tsariste toutes les classes populaires de la société russe pendant des années. Elle commence bien avant 1917, au moins avec la révolution de 1905, le déferlement de grèves, de soulèvements populaires, qui continue jusqu'à l'insurrection de février 1917, puis celle d'octobre, et durant toute la guerre civile. La fin de la révolution, peut-on la fixer en 1921-1922, à la fin de la guerre civile, en 1923, à la fin de la poussée révolutionnaire en Allemagne, en 1924, à la mort de Lénine, ou au moment où Staline prend le contrôle total du parti? En tout état de cause, c'est bien après 1917. Résumer toute cette période à un coup d'État est tout simplement une falsification grossière de l'histoire qui invisibilise les Russes en mouvement. Car la Russie de la Révolution, c'est un pays dans lequel toute forme d'autorité a disparu, dans lequel l'aspiration à la liberté contre toutes les oppressions, à la justice sociale, mobilise l'ensemble de la société. Les soldats désertent par dizaines de milliers, massacrent les officiers. Les paysans pillent et brûlent les maisons des propriétaires fonciers et prennent les terres. Les ouvriers occupent leurs usines. Dans les périphéries de l'Empire, les peuples volent leur liberté. La politique envahit la vie quotidienne. Les murs se couvrent d'affiches annonçant un meeting, un congrès, une réunion, un programme. Par exemple, après février 1917, en un mois, 150 quotidiens et hebdomadaires voient le jour à Pétrograd. Le basculement de 1917 se produit sans affrontement important, parce que l'État tsariste est incapable de réagir et n'est soutenu que par des secteurs très minoritaires dans la société. Il avait déjà montré sa déliquescence au moment de l'entrée en guerre de 14. Lorsqu'elle commence, bien des régiments partent au front avec un fusil pour deux soldats. Les survivants prenant ceux des morts. Les patrons des grandes entreprises mettent en place eux-mêmes un réseau pour assurer leur emprisonnement, tout comme les villes qui s'organisent pour le ravitaillement. Face à cela, le moteur de la révolution est le refus du tsarisme, de cette société féodale violente, rétrograde, dans laquelle la bourgeoisie russe est incapable d'assumer les tâches de la révolution bourgeoise. Car elle est faible. La Russie, n'ayant pas connu l'évolution de l'Europe au XIXe, le capitalisme moderne, hyper centralisé qui s'y est développé, s'étant appuyé sur des capitaux étrangers. Les masses paysannes et ouvrières, les nationalités opprimées, font irruption sur la scène politique, contre les bourgeois, l'élite, pour que la disparition du tsarisme s'accompagne de la disparition de l'héritage de l'autocratie. Elles se mettent en mouvement pour un changement de société. Des milliers de soviets, de comités divers couvrent le pays, des comités d'usines qui contrôlent la vie quotidienne dans les ateliers, les comités de quartier qui organisent l'approvisionnement, les crèches, la répartition des logements, les milices qui assurent l'ordre public, les comités de paysans qui se répartissent les terres, les comités de soldats qui s'occupent de stratégies militaires et les nationalités qui veulent s'émanciper. Autant lieux de prise de parole, de débats, d'initiatives. Ici, les étudiants dictent aux professeurs un nouveau programme d'histoire. Là, les ouvriers obligent le patron à apprendre le nouveau droit ouvrier. Les exemples sont innombrables. Ouvriers, ouvrières, soldats, paysans, paysannes, intellectuels juifs, femmes musulmanes, instituteurs, arméniens, etc., etc. Des milliers de motions, pétitions, adresses, doléances sont envoyées au comité, aux soviets, qui disent toute la misère du peuple et l'immense espérance soulevée par la révolution. Son échec final n'était pas écrit, ni son isolement après la défaite de la Révolution en Allemagne en 1923, pas plus que la victoire fasciste en Italie ou en Allemagne, pour ne prendre que ces exemples. L'histoire n'est jamais écrite d'avance. À toute situation, il y a plusieurs fins possibles. La défense aujourd'hui de cette Révolution ne doit pas nous empêcher de tirer les bilans du siècle, de l'importance de la démocratie à la base à toutes les étapes, du fait que la seule modification de la propriété des moyens de production ne construit pas une société socialiste démocratique, sans compter que les crises écologiques diverses impose de construire un socialisme démocratique qui ne s'appuie pas sur le développement sans fin des productions matérielles.